Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et avant de commencer, peut-être je vais donner rapidement quelques nouvelles. Donc, il y en a beaucoup qui me connaissent ici, ainsi que ma femme Yannès. Donc, j'ai fréquenté l'église pendant de nombreuses années et après quelques allers-retours pour les études, ce genre de choses. Nous nous sommes installés après le mariage à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Et depuis peu, nous avons complètement changé de côté de la France, puisque nous habitons à Montpellier. Ça fait 2 mois et demi, donc mon travail m'a amené là-bas pour travailler à l'hôpital de Montpellier. Donc nous sommes récemment installés, nous sommes heureux au soleil d'avoir fui un petit peu la grisaille et la pluie du nord de la France. Et on s'est un petit peu aussi rapprochés, ce qui nous permet de faire de petites visites à la famille et à la famille, on va dire, de sang et à la famille en Christ aussi. Donc ça nous fait plaisir d'être ici ce matin. Et donc j'espère qu'on va passer un bon moment à étudier la parole de Dieu ensemble. Et ce matin, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez l'effet pas de porte ? L'effet pas de porte. Alors, peut-être que ça ne vous dit rien, mais en fait, je pense que vous connaissez. C'est ce qui se passe quand vous rentrez dans une pièce et que vous vous retrouvez là et que vous vous dites « Qu'est-ce que j'étais bien venu faire ici ? J'en ai plus aucune idée. » Je pense que vous avez tous expérimenté ça. Ça m'est déjà arrivé, souvent. Et en fait, c'est un phénomène qui a même été analysé par la science. Ça serait dû au fonctionnement de notre cerveau, qui a tendance à segmenter les informations. Et le fait de passer d'une pièce à une autre, ça serait un bon moment que le cerveau trouve pour faire le tri dans les informations et en évacuer quelques-unes. Donc, vous pouvez vous rassurer, votre cerveau fonctionne aussi bien que celui de tout le monde, ou aussi mal, ça dépend comment vous le voyez. Alors, pourquoi je vous parle de cela ce matin ? Parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu similaire qui peut nous arriver dans notre vie chrétienne. Je m'explique. Lorsqu'on a ce problème de l'effet pas de porte, on a oublié ce qui nous est arrivé dans la première pièce. Par exemple, j'étais dans la cuisine et j'ai vu que j'avais plus d'huile. Donc, on a oublié ce qui nous est arrivé dans la première pièce. Et du coup, on ne sait plus ce qu'on doit faire dans la deuxième pièce. C'est-à-dire, je suis dans le garage et je dois en prendre une bouteille de la réserve pour en ramener dans la cuisine. Et de la même façon, un petit peu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui appartenons à Dieu, si nous avons la mémoire courte et si nous oublions ce qui nous est arrivé avant, ce que Dieu a fait pour nous, nous nous retrouvons des fois tout penauds, sans savoir quoi faire, sans savoir comment vivre, sans savoir c'est quoi notre but ici-bas. Et c'est pour ça que la Bible, elle est remplie d'appels solennels à se souvenir, à se rappeler. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Et un exemple parmi d'autres, quand dans le début de l'Apocalypse, il y a une lettre à l'église d'Éphèse, on peut voir que celle-ci, cette église a oublié d'où elle venait, elle a oublié d'où elle était tombée. Et dans cette lettre à l'église d'Éphèse, en Apocalypse 2, on trouve un appel « Souviens-toi d'où tu es tombé » pour qu'elle puisse retrouver son premier amour et pratiquer ses premières œuvres. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais qu'on examine un texte qui parle de cela, qui se trouve dans Tite 3. Donc on va étudier l'épître de Paul à Tite, chapitre 3, et les versets 3 à 8. Je vous laisse le chercher dans vos Bibles. Et la lettre de Paul à Tite, c'est une lettre qu'il a écrite à son collaborateur, à son disciple Tite, où dedans il y a tout un ensemble de conseils, et aussi il y développe plusieurs sujets que Paul juge très importants à transmettre à tous les croyants que Tite enseignerait. Et je pense que ça nous concerne aussi, nous, croyants, là, du 21e siècle. Et on peut avoir exactement les mêmes problèmes que les croyants du 1er siècle. Ça vaut le coup de s'y intéresser. Et dans ce passage, qu'est-ce qu'on va y trouver ? C'est ce que nous allons étudier ce matin. Nous allons d'abord trouver une description de l'état qui était le nôtre avant de rencontrer Dieu, avant de naître de nouveau. Nous allons ensuite y trouver une description magnifique de l'œuvre du salut et de l'effet que cela a eu sur notre identité. Et enfin, troisièmement, nous allons voir ce que ça implique pour notre vie présente, comment ces vérités, elles peuvent s'appliquer concrètement dans notre vie de tous les jours. Donc, nous allons lire ce texte. Donc Tite 3, versets 3 à 8. « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Et donc Paul, il commence dans ce passage par faire un état des lieux de l'homme, du statut de l'homme et de la femme, avant la transformation qu'opère le salut, qu'opère la rencontre avec Dieu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un tableau qui est très brillant. Stupide, rebelle, égaré, esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs, dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous détestant les uns les autres. Certains de ces termes, ils peuvent paraître choquants. Est-ce que tous les gens qui ne connaissent pas Christ sont vraiment comme ça? Est-ce que votre voisin, votre collègue de travail qui ne connaît pas le Seigneur, il est comme ça? Est-ce que vous aussi qui êtes présent ce matin, peut-être qui ne connaissez pas Christ, vous êtes comme cela? Est-ce que moi ou toi qui connais Christ, j'étais vraiment comme cela avant ma rencontre avec Dieu? Peut-être que ces termes, ils ont besoin d'être redéfinis selon des standards bibliques. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul, il s'inclut dans ce descriptif, il dit « nous ». Et avec ce que nous connaissons de Saul, Saul c'est le nom que Paul portait avant sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, nous pouvons essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Et dans Galates 1, nous avons un petit peu une description dans plusieurs versets de Saul tel qu'il était avant de rencontrer Christ. Alors, si nous reprenons la liste, est-ce que Saul était vraiment stupide? Dans Galates 1, il nous est dit qu'il était plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de son âge, c'est-à-dire dans la connaissance, dans l'interprétation du Nouveau Testament. C'était donc quelqu'un de très érudit et en plus particulièrement en avance pour son âge. Est-ce que Saul, il était vraiment rebelle et égaré? Saul, jeune homme, c'était pas vraiment un anarchiste. Galates 1, encore une fois, nous dit qu'il était animé d'un zèle excessif pour les traditions de ses ancêtres. Quelqu'un qui est très attaché aux traditions de ses ancêtres, plus quelqu'un de jeune, on a connu plus rebelle que ça comme caractère. Est-ce que Saul était vraiment esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs? Est-ce qu'il était dans l'envie? Saul, c'était un pharisien. Les pharisiens, c'est une caste religieuse qui avait un nombre incalculable de règles, en plus des règles de l'Ancien Testament. Ce n'est pas vraiment l'image qu'on a de quelqu'un qui vit dans les passions ou dans les plaisirs. Et enfin, pour continuer cette liste, est-ce que Saul était vraiment dans la méchanceté? Est-ce qu'il était vraiment odieux et qu'il détestait les autres? Là, peut-être, force est de constater que si on regarde ce qui est décrit dans Galates 1, on retrouve son caractère. Lui dont il est dit dans le livre des Actes qu'il avait approuvé le meurtre d'Étienne et qu'il pénétrait dans les maisons, qu'il en arrachait les chrétiens hommes et femmes et qu'il les faisait jeter en prison. Là, effectivement, on retrouve peut-être son caractère. Alors qu'est-ce que nous devons penser de toute cette liste? Est-ce que Paul, il va trop loin quand il dit tout ça? Non, je ne pense pas, parce que si on l'examine avec des critères bibliques, on se rend compte qu'il a certainement raison. Alors oui, même le plus intelligent, le plus érudit, il peut être appelé stupide s'il n'a pas expérimenté le renouvellement de l'intelligence dont parle Romains 2, le renouvellement de l'intelligence qui intervient quand il y a une rencontre avec Dieu. Et la Bible a dit aussi que Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde. Alors oui, aussi, sans Dieu, l'homme est rebelle et égaré. Jésus disait à propos des personnes dans la foule qui venaient l'écouter qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors oui, également, l'homme, sans Dieu, il est envieux, il est esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs. Pierre dit dans sa deuxième épître que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et l'homme, par nature, a une capacité qui est hors du commun à se créer des idoles dont il se rend lui-même esclave. Et enfin, oui, l'homme sans Dieu, il est méchant, odieux et haineux. peut-être que les gens autour de vous, ils passent pas leur temps à se taper à se taper dessus ou à s'insulter. Mais quand Jean, il nous dit dans sa première épître que celui qui déteste son frère, il est comme un meurtrier, là, ça prend du sens, effectivement. Et oui, l'homme, il est méchant, odieux et haineux. Alors oui, si nous avons connu Christ, si nous avons rencontré Dieu, nous étions comme cela sans lui. Est-ce que ça signifie que nous sommes différents désormais? Oui, certainement, nous sommes différents. Peut-être pas exactement comme nous le pensons, parce que certains de ces traits de caractère y ressortent encore. Mais nous allons voir un petit peu plus loin ce que ça veut dire. En tout cas, ce passage, s'il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est qu'il doit nous inciter à l'humilité, à une très grande humilité. Et si on restait que sur ce tableau, ça serait quelque chose de très triste. Et heureusement, le verset suivant commence par un petit mot qui veut dire beaucoup de choses, mais. Et on va voir la suite. Ce petit mot, ce mais, c'est certainement un des mots les plus importants de l'Écriture pour ce qui change pour nous. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et les versets suivants, ils montrent le retournement de situation incroyable que l'œuvre de Dieu a opérée, cette œuvre que Dieu a faite dans nos vies. Et le verset 4, il nous décrit tout d'abord la raison de cette œuvre. Il s'agit tout simplement de la bonté de Dieu et de son amour pour les hommes. Ce sont des caractéristiques fondamentales de la nature de Dieu. Elles sont attachées à Dieu de toute éternité. Dieu est bon et Dieu est amour depuis toujours. Mais ces caractéristiques se sont particulièrement révélées il y a environ 2000 ans, lorsque Dieu lui-même il s'est incarné dans un homme, au temps qu'il a décidé et qu'il est venu vivre sur terre et mourir sur une croix à notre place. Et c'est alors qu'il nous a sauvés. C'est le début du verset 5, c'est une toute petite phrase, quelques mots, comme cela. C'est assez minimaliste, mais tout ce que ça signifie, tout ce que ça englobe, c'est énorme, ça donne le vertige même. Et Dieu nous a sauvés, de quoi Dieu nous a-t-il sauvés? Dieu, il nous a sauvés entre autres, je fais une rapide liste, mais il y aurait beaucoup à dire, mais il nous a sauvés de la mort, il nous a sauvés de notre vaine manière de vivre, la vaine manière de vivre, on en voit un petit aperçu dans le verset 3, ce qu'on a lu. Il nous a sauvés de sa juste colère. Est-ce que Dieu aurait pu être en colère contre nous et nous punir, et cela aurait été juste? Il nous a sauvés de l'esclavage du péché. Il nous a sauvés de la séparation d'avec lui. Ruben en a parlé. Il nous a sauvés de la domination de Satan. Et ainsi de suite. On pourrait continuer la liste un bon moment. Et Paul, il ne s'étend pas forcément dans ce passage précis sur ce salut lui-même, mais plutôt sur la façon dont nous en avons bénéficié. Et la première chose qui est fondamentale, elle se trouve dans la suite du verset 5. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. C'est tout ce que nous avons vu dans ce culte. Dieu, il nous a sauvés simplement par grâce. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Et c'est important peut-être de s'arrêter 2 minutes là-dessus, parce que si c'est quelque chose que nous ne comprenons pas, nous allons avoir tout faux dans plein de domaines. Et malheureusement, on peut se tromper là-dessus. Certaines personnes pensent que par leurs bonnes actions, ils peuvent faire pencher la balance du côté du bien plutôt que du côté du mal. Mais la Bible, elle nous dit qu'un seul péché, un seul, est suffisant pour nous séparer complètement de Dieu. Et même si nous ne pensons pas cela consciemment, si nous ne disons pas « non, je vais gagner la faveur de Dieu par mes actions », C'est une pensée qui est dangereuse et qui peut s'insinuer dans un coin de notre tête. Et les conséquences, elles peuvent être assez terribles, parce que je ne vous annonce pas quelque chose de nouveau maintenant, mais notre vie chrétienne, elle est faite de haut, elle est faite de bas. Et si nous laissons ne serait-ce qu'une toute petite place à cette idée qui est dangereuse, voilà ce qui va se passer. Lorsque nous jugerons que nos actions, elles sont bonnes, que nous nous sentons à la hauteur, nous allons devenir orgueilleux et suffisants. Et c'est le meilleur moyen déjà pour chuter à nouveau, mais aussi c'est un bon moyen pour détruire notre témoignage. Souvent les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et à qui l'évangile est annoncé, ils n'ont pas forcément de problème avec la foi, avec la Bible, avec le message de l'Évangile, mais parfois ils ont un problème avec les chrétiens, ou alors ceux qu'ils ont rencontrés dans leur vie qui s'identifient comme chrétiens. Ils les jugent arrogants ou supérieurs, et cela les bloque beaucoup. Et si c'est notre cas, si ça nous est arrivé, moi ça m'est arrivé, il faut savoir retourner au verset 3 qui décrit d'où nous sommes partis, qui décrit toute la liste de ce que nous étions. Et il faut retourner aussi au verset 5 qui précise que notre salut, il n'est pas venu à cause de nos actes de justice. Il est venu par la seule grâce de Dieu. Et il y a un deuxième risque quand nous avons cette idée dangereuse dans un coin de notre tête, c'est que lorsque nous allons chuter, nous allons nous trouver indignes de l'amour et du salut de Dieu. Et Ruben en a parlé tout à l'heure. En plus des dégâts qui sont causés par le péché que nous avons commis, cette pensée de nous dire que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu, pas dignes de son salut, elle vient détruire notre zèle, elle vient détruire notre communion. Elle va nous empêcher de retourner à lui, alors que c'est justement ça qu'il faudrait faire. Et notre péché, il ne peut pas nous condamner de nouveau. Pas plus que notre justice n'a pu nous sauver au départ. Il y a un verset qui le dit clairement, 1 Jean 1,9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. C'est aussi simple que ça. Le remède, il est là. La grâce de Dieu, elle est à portée de main quand nous sommes tombés. Et ça, c'est fondamental de s'en souvenir dans notre vie chrétienne, dans les moments où ça va bien et dans les moments où ça va moins bien. Et la suite du verset 5 et le verset 6 nous décrivent comment le salut nous a été offert. À travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Et lorsque quelqu'un vient à Dieu, quand une personne rencontre le Seigneur véritablement, ce sont deux phénomènes qui se produisent. Tout d'abord, le bain de la nouvelle naissance. Quand une personne naît de nouveau, elle est véritablement une nouvelle créature. On repart à zéro. Si cela nous est arrivé, c'est important de se souvenir de cela. Qu'il y a un départ, un nouveau départ. Qu'on n'est pas la même personne un petit peu améliorée, la même personne un peu plus gentille, un peu plus aimante, qui a un peu moins de défauts, qui s'est débarrassée de quelques boulets qu'on traînait auparavant. Mais qu'au final, bon, il n'y a pas tant de défauts. Il n'y a pas tant de changements, pardon. Non, on est véritablement quelqu'un de nouveau, c'est une nouvelle naissance. Et on pourrait passer des semaines à parler de tout ce sujet, de la nouvelle identité en Christ. Simplement une rapide remarque sur ce verset. Quand on parle du bain de la nouvelle naissance, ce n'est pas du baptême en fait dont on parle, du baptême d'eau. Et peut-être que c'est trompeur parce que selon vos versions, ce mot il est traduit par le baptême de la nouvelle naissance. Mais il s'agit plutôt d'une image de la purification des péchés qui est opérée en nous lorsque nous naissons de nouveau. Et c'est de ça dont parle Éphésiens 5, versets 25 et 26, un verset assez connu qui dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église ». C'est un bon rappel au passage. « Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole ». Voilà, c'est de ça dont on parle ici, quand il y a le bain de la naissance, de la nouvelle naissance. C'est la purification initiale de nos péchés lors de la rencontre avec Christ. Et enfin, il y a le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Lors de la nouvelle naissance, Dieu lui-même, Dieu l'Esprit, vient habiter en nous et il nous renouvelle. En plus d'une transformation initiale qui opérait, c'est un processus qui se poursuit tout au long de notre vie chrétienne. Et cet esprit, le verset nous dit qu'il a été déversé en abondance par le biais de Jésus-Christ. Jésus avait effectivement promis à ses disciples qu'après son départ, il ne les laisserait pas seuls. Il a promis que le Saint-Esprit viendrait, et il est venu effectivement à la Pentecôte. Et il vient aussi dans la vie de tous les croyants, de tous ceux qui rencontrent Dieu et qui sont nés de nouveau. Et c'est également grâce à Jésus que cela est possible. Cet esprit a pu venir habiter en nous. Jésus a rendu cela possible en mourant sur la croix. Et ces versets 4, 5 et 6 Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je les lis, ça donne presque le vertige. C'est incroyable tout ce qui est contenu dedans. En quelques mots, Paul y décrit à Tite toute la grandeur de l'œuvre de Dieu. Et peut-être vous l'avez remarqué en le lisant, mais les trois personnes de Dieu, les trois personnes de la Trinité sont mentionnées dans ces versets. Dieu le Père, il a révélé sa bonté et son amour en nous sauvant. Il a déversé sur nous son esprit. C'est son esprit qui nous a renouvelés et qui nous renouvelle encore. Et tout cela par Jésus-Christ, par le moyen de sa mort à la croix. Et le résultat de tout cela, de cette œuvre magnifique, c'est le verset 7. « Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. » Par sa grâce, et seulement par sa grâce, nous sommes passés d'un statut d'étranger, d'ennemi de Dieu, de rebelle, à un statut d'héritier. Et c'est incroyable toutes les promesses qui sont contenues dans ce mot d'héritier. Le seul héritier qui devrait exister, c'est Christ. C'est Christ, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, qui est le seul qui est digne, qui est le seul qui est digne d'avoir un statut d'héritier devant Dieu, le seul qui a été parfait. Mais Dieu nous a adoptés comme ses enfants et nous promet que lorsque le moment sera venu, nous allons partager sa gloire, nous allons vivre éternellement avec lui. Nous allons être délivrés pour toujours de la mort, de la souffrance, de la maladie, de beaucoup d'autres choses. Voilà l'héritage qui nous attend, enfin, en tout cas une partie de l'héritage qui nous attend. Et nous sommes héritiers avec Christ de tout cela. Après ce descriptif de cette opération de sauvetage incroyable que Dieu a menée, qu'est-ce que nous devons faire maintenant ? Après avoir compris tout ça, que faire ? Pourquoi Paul, il a pris la peine de raconter tout cela à Tite ? Il dit d'abord que cette parole, elle est certaine et que Tite, il devrait se montrer affirmatif là-dessus. Ce sont des mots qui sont forts et ça veut dire que c'est certainement pas un sujet qu'il faut laisser de côté. Et se souvenir d'où nous sommes tombés, de ce que Dieu a fait pour nous et de ce que nous sommes devenus maintenant, c'est d'une importance capitale. Et Paul, il donne ensuite la conséquence qui va avec tout cela. Et ça peut peut-être surprendre, mais si on n'a pas mis les choses dans le bon ordre, mais la conséquence de tout cela, c'est de pratiquer de belles œuvres. Pourquoi Paul fait-il ce lien ? Parce que quand on lit ce texte, pour lui, ça a l'air vraiment direct. Cela ne peut pas sembler évident, mais il y a plusieurs raisons qui montrent que pratiquer de bonnes œuvres, c'est la conséquence directe de tout ce que nous avons vu dans les versets 4 à 7. Premièrement, parce que notre nature, elle a changé. D'étrangers sans Dieu, nous sommes devenus héritiers et nous sommes remplis de la présence même de Dieu par l'Esprit. Comme notre nature a changé, nos actions aussi doivent changer. Et il devrait être aussi naturel pour un chrétien, pour un croyant, quand il est rempli de l'Esprit, quand il le laisse agir en lui aussi, de pratiquer de bonnes œuvres. Ça devrait être aussi naturel que pour une vache de produire du lait, pour un chien d'aboyer, ou pour un moustique de venir gâcher notre été. C'est sa nature, malheureusement. Mais c'est profondément attaché à notre nature. Galates 5, versets 19 à 24, nous montre les deux natures qui sont opposées. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres sujets de ce genre. Autre chose de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec sa passion et ses désirs. Ici, on voit les deux natures. La nature de l'homme qui est perdu sans Dieu et la nature de l'homme qui a trouvé Dieu. Et chacun produit des fruits qui sont différents. Et pourquoi ? Deuxièmement, pourquoi ? Pratiquer de belles œuvres, c'est la conséquence directe de tout ce que nous avons vu avant, tout simplement par reconnaissance pour ce que Dieu a accompli pour nous. Hébreux 12, 28 nous dit « C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. lorsqu'on se retrouve devant tout cela, devant toute l'œuvre que Dieu a accomplie dans nos vies, on ne peut que ressentir de la reconnaissance, surtout quand nous lisons le verset 3 et que nous nous souvenons d'où nous sommes partis. Et nous allons voir que rendre un culte à Dieu, ce n'est pas limité à ce que nous faisons le dimanche matin, comme ce matin, bien entendu. Et avant d'aller un peu plus loin, peut-être que c'est nécessaire de redéfinir ce terme de belles œuvres que Paul évoque dans ce passage. Les belles œuvres, les bonnes œuvres, peut-être que ça peut avoir une connotation un peu vieillotte, un peu passée. On imagine faire traverser la rue à une personne âgée ou je sais pas, donner de l'argent à un SDF dans la rue. Alors, est-ce que ça, c'est des bonnes œuvres? Oui, certainement. Mais ce terme de bonnes œuvres, il a un petit côté scout, peut-être. Désolé hein, pour les scouts dans la salle, on vous aime. Et alors, ça, ce sont des bonnes œuvres, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est véritablement? Moi, j'ai trouvé une définition, c'est John Wesley, un prédicateur du 18e siècle, qui a décrit les bonnes œuvres comme cela. Il dit que c'est faire tout le bien que l'on peut, dans le temps que l'on a, avec les moyens qu'on a, à l'endroit où on est. Faire tout le bien que l'on peut, dans le temps que l'on a, avec les moyens que l'on a, à l'endroit où on est. Je trouve que c'est une belle définition qui montre que aussi cela peut varier selon les personnes, selon nos possibilités, selon nos dons, mais c'est faire le bien autour de nous comme nous le pouvons. Et je pense que ça peut un peu élargir notre horizon au niveau des bonnes œuvres, des belles œuvres. Et je ne rentrerai pas dans les détails de tout cela, mais voici quelques exemples qui sont directement cités dans les Écritures, quelques exemples de bonnes œuvres. Exercer l'hospitalité, venir en aide aux personnes vulnérables, subvenir aux besoins des serviteurs de Dieu, annoncer la bonne nouvelle, encourager nos frères et sœurs par des paroles, prier pour eux, les servir, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui répond à cette définition. Et Paul explique ensuite, dans la suite du verset, que pratiquer de belles œuvres, c'est bon et c'est utile. Alors pourquoi c'est bon et c'est utile? Tout d'abord, pourquoi c'est bon? C'est bon, premièrement, dans le sens moral, parce que ces œuvres, elles reflètent la nature de Dieu. Dieu qui est bon, Dieu qui est amour. Et en faisant cela, nous reflétons la nature de Dieu. Bon également, parce que cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que vous connaissez ce verset, assez connu, Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et ce verset, malheureusement, il est des fois un peu maltraité, parce que si on le lit comme ça, sans voir tout ce qu'il y a autour, on peut s'imaginer, d'accord, il va m'arriver que des choses bonnes, mais est-ce que le bien selon Dieu, c'est le même que le bien que je juge pour moi? Peut-être pas. Et si on regarde la suite, le verset 29, qui nous dit « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » En effet, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Et devenir conforme à l'image de son Fils, devenir conforme à Jésus, ça c'est notre bien en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est bon pour nous. Et donc, pratiquer de bonnes œuvres, pratiquer de belles œuvres, cela contribue à nous rendre plus conformes à l'image de Christ, lui qui a été le modèle parfait dans ce domaine, allant jusqu'à donner sa vie pour nous. Et donc ça, pratiquer de belles œuvres, c'est bon pour nous, c'est notre bien. Pratiquer de belles œuvres, c'est bon, mais c'est aussi utile. Pourquoi est-ce utile? Utile car par ces belles œuvres, nous glorifions Dieu. Et cela est utile parce que Dieu, un de ses buts, c'est sa propre gloire. Cela peut sembler étonnant, dit comme ça, mais un des buts principaux de Dieu, c'est de montrer sa gloire. Et je n'ai pas forcément le temps de développer plus cet aspect, mais c'est une réalité qui est vraiment présente dans la Bible. Et tout ce que nous faisons qui contribue à glorifier Dieu, c'est quelque chose qui est véritablement utile parce que ça remplit les buts de Dieu. Pourquoi c'est utile? Utile aussi parce que c'est un témoignage qui est puissant. 1 Pierre 2,12 nous dit ceci. « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où il vous calomnie comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rende gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Les bonnes œuvres, les belles œuvres que nous faisons, c'est un témoignage puissant pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Utile également, car même si faire le bien ne peut pas et ne pourra jamais nous obtenir le salut, la Bible, elle nous dit que l'œuvre de chaque croyant sera examinée, sera évaluée, sera jugée et sera éventuellement récompensée. 1 Corinthiens 3, versets 13 et 14 nous dit ceci : l'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et ce n'est pas un jugement qui va déterminer si nous qui connaissons le Seigneur, nous vivrons éternellement avec lui ou pas. C'est plutôt un jugement qui viendra évaluer ce que nous avons fait dans notre vie. Est-ce que nous avons fait le bien autour de nous selon nos possibilités et nos moyens ? Et Jésus parlait de cela quand il nous invitait à ne pas amasser des trésors sur la terre, mais plutôt à amasser des trésors dans le ciel. Parce que notre œuvre sur terre aura des conséquences dans l'éternité. Des conséquences bonnes ou mauvaises. Je ne vous l'avais pas affiché, excusez-moi. Ainsi, nous pratiquons de bonnes œuvres, non pas pour espérer s'acheter la faveur de Dieu, pour espérer sa bénédiction, pour rendre Dieu plus heureux ou pour rattraper ce que nous aurions fait de mal. Ce sont toutes des mauvaises raisons de pratiquer de bonnes œuvres. Mais nous les pratiquons parce que nous avons présent à l'esprit l'état de misère dans lequel nous nous trouvions et notre état actuel d'héritier de la vie éternelle. Voilà pourquoi nous les pratiquons, pourquoi nous devons les pratiquer. Pour conclure, qu'est-ce que nous avons véritablement vu aujourd'hui ? Nous avons lu un passage qui nous invite à nous souvenir de plusieurs choses. Il nous invite à nous souvenir qu'avant notre rencontre avec Dieu, si nous examinions notre état selon des critères bibliques, le constat était terrible. Il nous invite, ce passage aussi, à nous souvenir que Dieu a effectué une opération de sauvetage incroyable, par sa seule volonté, par son amour, par sa grâce, sans que nous le méritions. Et que grâce à cela, nous avons été transformés et que nous bénéficions de magnifiques promesses pour l'avenir. Et enfin, nous avons vu que si nous nous souvenons de tout cela, une des conséquences importantes, ce n'est pas la seule, mais c'est de s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Et que cela, c'est bon et c'est utile pour nous. Et je crois fermement que si nous avons cela bien à l'esprit, si nous ne l'oublions pas, si nous nous souvenons, nous faisons l'effort de nous souvenir, nous remettons les choses dans le bon ordre dans notre vie. Et nous pouvons être vaccinés contre plusieurs grands dangers qui nous guettent dans notre vie chrétienne. Nous pouvons être vaccinés contre l'orgueil de notre statut de chrétien, de nous imaginer que nous sommes supérieurs aux autres, parce que nous nous souvenons d'où nous venons, et nous sommes conscients que nous n'avons rien mérité et que tout vient de Dieu. Nous pouvons aussi être vaccinés contre le sentiment de ne pas être dignes de l'amour de Dieu, dignes du salut lorsque nous chutons, parce que nous savons que tout est venu de Dieu par sa seule compassion, et que si nous n'avons rien pu gagner, nous ne pouvons pas perdre non plus. Nous pouvons être vaccinés également contre la pratique de bonnes œuvres pour de mauvaises raisons, que ce soit pour espérer gagner la faveur de Dieu, pour se racheter ou pour se dire que Dieu va nous bénir en retour. Ou simplement pratiquer de bonnes œuvres sans même plus savoir pourquoi, parce qu'il faut le faire. Non, nous avons de très bonnes raisons de pratiquer de bonnes œuvres. Et nous pouvons être aussi vaccinés contre le fameux syndrome du pas de porte qui nous pousse à nous dire « Qu'est-ce que je fais maintenant ? J'appartiens à Christ, mais qu'est-ce que je dois faire avec ma vie ?» Eh bien, maintenant, si nous nous souvenons de tout ça, nous savons que nous devons combattre le bon combat en sachant que la victoire, elle est déjà assurée. Nous devons achever la course pour recevoir le prix. Et il y aura de la sueur, il y aura des souffrances. Mais si je sais d'où je viens, si je sais ce que Dieu a fait pour moi, et si je sais où je vais, le Seigneur, il m'en rendra capable. Et que le Seigneur nous y aide tous. Amen. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui contient tellement de richesses, ta parole qui nous invite à nous souvenir, Seigneur, de ce que nous étions, de ce que tu as fait pour nous et de ce que nous devons faire maintenant. Seigneur, merci pour cette œuvre incroyable que tu as faite dans nos vies. Merci parce que nous avons vu que nous ne méritions rien, que c'est seulement par ta bonté, par ta compassion, par grâce que tu es venu à notre secours, que tu es venu nous transformer, que tu es venu faire de nous des créatures nouvelles, Seigneur, et que cela change tout pour nous. Aide-nous à nous souvenir de cela tous les jours de notre vie et que cela puisse nous aider, nous encourager, nous fortifier et nous protéger, Seigneur, des dangers qui nous guettent dans notre vie chrétienne. Merci, Seigneur, parce que tout vient de toi et que c'est par toi que nous pouvons continuer, que nous pouvons combattre le bon combat, que nous pouvons achever la course, Seigneur. Amen.